Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Lumière.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale et aujourd'hui plus particulièrement ceux de l'économie française. L'INSEE, l'Institut français de la statistique, a annoncé il y a quelques jours que le rythme de croissance de l'économie en 2015 serait de 1,2% au lieu de 1% seulement prévu par le gouvernement au début de l'année. Cette annonce a été accueillie avec satisfaction, mais aussi avec prudence. Si l'économie française semble aller mieux, si les voyants se mettent progressivement au vert, il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Principale manifestation des faiblesses françaises, le chômage bat jusqu'à présent des records tous les mois, et ni la gauche actuellement au pouvoir, ni la droite qui l'a précédée, n'ont réussi à endiguer cette avancée. Alors la multiplication des signes de meilleure forme va-t-elle changer la donne? Les réformes engagées par le gouvernement de Manuel Valls sont-elles des réformettes ou plus? La France s'engage-t-elle à pas compter dans une mutation majeure de son modèle économique? Voilà les questions que je poserai tout au long de cette émission aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Benjamin Coriat.
Bonjour.
Benjamin Coriat, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 13, membre du collectif des économistes atterrés, et vous signez aux éditions Les Liens qui Libèrent un livre qui s'appelle Le Retour des communs. C'est un titre un peu mystérieux.
Oui, c'est un titre un peu mystérieux, mais la notion de commun appartient à tout le vocabulaire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie collaborative, donc l'économie des plateformes, l'économie du partage, dont un des travers, puisque c'est devenu de l'économie de prédation, est Uberpop. Donc vous voyez, on est en plein dans le sujet. Je pensais pas, écrivant ce livre, que j'allais être autant dans l'actualité.
L'actualité française avec les manifestations des chauffeurs de taxi à Paris et ailleurs. Avec nous également dans ce studio, Mathieu Plane. Bonjour.
Bonjour.
Mathieu Plane, vous êtes directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Office français de conjoncture économique, un organisme de recherche indépendant. Est-ce que la France est de retour, comme le disait il y a quelques jours Emmanuel Macron, le ministre français de l'économie?
Alors, c'est une vaste question. Est-ce que la France est de retour? En tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est que la zone euro, en tout cas potentiellement, peut aller mieux si elle règle le problème de la Grèce. Parce qu'on voit bien qu'on est aussi face à une situation extrêmement difficile avec la Grèce. En revanche, c'est vrai qu'après cette année de crise extrêmement violente, on peut penser qu'on est dans le début d'une reprise. Alors, on va pas effacer tous les stigmates de la crise, mais effectivement, il y a des vecteurs d'espoir.
Alors, au cours de cette émission, nous entendrons aussi deux reportages sur les PME, les petites et moyennes entreprises françaises. Deux reportages signés Laetitia Bezin. La parole aussi aux hommes politiques avec des extraits sonores. Et puis, actualité oblige, Mathieu Plane, vous en avez parlé à l'instant. Nous évoquerons aussi la situation grecque et ses conséquences pour la France. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Benjamin Coriat, le 13 septembre dernier, vous étiez déjà dans ce studio pour un écho d'ici, écho d'ailleurs, qu'on avait intitulé à l'époque « La France décroche-t-elle ?» avec un point d'interrogation. À l'époque, donc, l'ambiance était plutôt pessimisme. L'ambiance aujourd'hui est moins morose sur le plan purement économique. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que l'économie française va si mieux que ça?
Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que la cure d'ajustement à laquelle la France a été soumise, avec 600 000 chômeurs en plus quand même, hein, depuis l'élection de François Hollande, plus des circonstances externes tout à fait favorables, hein, qu'il faut quand même rappeler, hein, la baisse de l'euro, extrêmement significative, le plan Draghi qui a inondé de liquidités l'économie européenne, bref, tous ces éléments-là...
La baisse des prix du pétrole.
La baisse du prix des pétroles, voilà. C'est très important de, quand même de dire tous ces éléments externes, hein, qui sont intervenus depuis septembre. Tous ces éléments-là font que une partie du plan, à savoir remettre les entreprises en situation favorable, si je peux dire, semble se réaliser. Hein. ont pris d'un coup social très important. Vont-elles pour autant, si j'ose dire, franchir le pas ? On leur a donné les clés du camion. Hein. Toute la politique qui a été conduite consistait à dire tout va dépendre des entreprises et on fait tout pour leur redonner des moyens. Bien. Vont-elles franchir le pas ? Et les choses vont-elles basculer vers de l'investissement et de la reprise ? Je pense que il est extrêmement tôt pour le dire.
Mathieu Plane, vous êtes sur la même longueur d'onde ?
Alors, oui, en partie. C'est-à-dire que il faut rester extrêmement vigilant et prudent. Les seules choses qu'on peut dire aussi, c'est que effectivement, depuis le début de la crise, on n'a jamais eu des conditions aussi favorables pour avoir une reprise. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser les choses. C'est-à-dire que pendant, on va dire, ce gouvernement et notamment avec le président de la République François Hollande, ou même avant avec Nicolas Sarkozy, on avait annoncé la reprise. Et là, justement, dans l'OFCE, on était vigilant en disant non, on n'est pas dans des conditions de reprise. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est vrai quand on parle de l'alignement des planètes favorables.
L'alignement des planètes, les trois planètes, la baisse
du pétrole. Faut pas oublier que ça redistribue quand même. Si on reste dans cette situation, c'est quasiment 20 milliards de transferts positifs pour l'économie française. La baisse de l'euro qui permet de gagner en compétitivité en dehors de la zone euro et qui relance aussi en partie l'économie d'autres pays avec le crayon commerce au sein de la zone euro. Les taux d'intérêt très favorables, très bas, hein, des conditions quand même très favorables. Et puis le fait que malgré tout, la politique d'austérité, elle existe encore, mais elle est quand même moins violente que ce qu'on a connu par le passé. Donc on avait des freins extrêmement forts sur l'économie française et l'économie européenne. Petit à petit, ces freins se lèvent et donc on peut penser que la croissance va repartir. Mais attention, on part de très loin. C'est-à-dire qu'il faut quand même être prudent. C'est-à-dire que n'oublions pas, le chômage avant crise était inférieur à 7%, on est aujourd'hui à 10%. Donc on peut penser que progressivement le chômage va baisser, mais pour revenir au niveau de chômage d'avant crise à ce rythme-là, il faut attendre 2022. Donc,
avant crise, c'était quand ?
2007.
Benjamin Coria.
Oui, moi j'abonde dans ce sens. Si vous voulez, avant l'épisode Tsipras, etc., on disait, vous voyez, ça va bien, hein, maintenant la Grèce a 1,5 point de croissance derrière elle et à venir. Ben oui, après moins 25%, il n'y a vraiment pas de quoi s'esclaffer. Alors, on n'est pas dans cette situation-là, bien sûr, hein, mais quand même, ce que disait Mathieu Plane, et auquel je souscris parfaitement, c'est que après l'ajustement dur qu'on a eu, que maintenant il y a un peu de reprise, est-ce que ça va être suffisant pour éponger le stock simplement pour revenir à la situation de 2007 ? Je pense que la question est ouverte et qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes.
Alors je disais en présentant cette émission que les voyants se mettaient au vert. Mathieu Plane, c'est quoi ces voyants ?
Alors ils sont assez nombreux. Hein, c'est-à-dire qu'il y a premièrement l'aubaine de la baisse des prix du pétrole, parce qu'il faut quand même bien avoir en tête ça. C'est-à-dire que effectivement le gouvernement à miser sur les entreprises et en donnant, enfin en tout cas en transférant, on va dire à l'horizon 2017, c'est 41 milliards aux entreprises, que ce soit le CICE ou le pacte de responsabilité. Donc c'est massif, il faut bien que quelqu'un paye. Et donc effectivement, c'est les ménages qui financent la compétitivité des entreprises. Donc pourquoi pas ? Mais sauf qu'on avait un problème, c'est qu'on a étouffé la demande. Et donc vous améliorez la compétitivité de l'offre, mais en face, vous n'avez pas la demande et donc les carnets de commandes sont en berne. Donc l'aubaine qui est extrêmement importante pour le gouvernement, c'est qu'en fait, ce déséquilibre entre l'offre et la demande va être progressivement réglé si on reste dans ces conditions, parce que le prix du pétrole redistribue du pouvoir d'achat aux ménages et donc va permettre de garnir les carnets de commandes. Pareil, la baisse de l'euro permet d'aller chercher des carnets de commandes à l'étranger. Donc en fait, on rééquilibre l'offre et la demande grâce à ces phénomènes de baisse du prix du pétrole, baisse de l'euro. Et donc ça, c'est des signaux extrêmement importants. Mais il faut rester dans ce contexte favorable. C'est-à-dire que effectivement, si on a une inversion, si par exemple l'euro remonte vite ou si les prix du pétrole remontaient, alors à ce moment-là, on risquerait de se retrouver dans une situation difficile. Et puis le dernier point, qui est quand même pas négligeable, c'est que mine de rien, cette politique menée par le gouvernement, que ce soit CICE ou pacte de responsabilité, va monter en charge progressivement. Il faut avoir en tête que le CICE, c'était 6,5 milliards qui ont été distribués aux entreprises en 2014. En 2015, c'est 17 milliards. En 2016, on passe à 23 milliards. Donc au bout d'un moment, de toute façon, ça va redonner des marges aux entreprises, ça va avoir quand même un effet sur le coût du travail et potentiellement l'emploi. Alors on peut négocier et dire, effectivement, les effets auraient pu être meilleurs si on avait fait différemment. Mais en tout cas, quand on transfère des sommes comme ça aussi importantes aux entreprises, au bout d'un moment, il y a quand même des effets. Donc si on reste dans ce contexte macroéconomique favorable, plus une montée en charge des dispositifs fiscaux, alors il y a des raisons de penser que l'économie va repartir, ou sinon, ça veut dire que tout est cassé en France.
Benjamin Coriat, les entreprises françaises, elles étaient vraiment menacées d'étouffement ?
Écoutez, moi, j'ai jamais adhéré à ce discours. C'est vrai que la politique austéritaire, si je peux dire, qui a été menée, moins pas nécessairement en France comme telle. Je suis d'accord là-dessus. En France, ça a été relativement modéré. Moins cette question du transfert de charges, hein, qui est quand même très important, parce que il a fallu le prendre quelque part, et on sait très bien où est-ce qu'on l'a pris. Hein. On l'a pris sur la sécurité sociale, on l'a pris sur les dépenses des collectivités locales, etc., etc. Bien, mais la cure austéritaire imposée par le traité budgétaire de 2012 avec cet impératif de revenir extrêmement vite à 3%, d'ailleurs maintenant on dit à 3%, mais le traité disait à 0% hein, de déficit budgétaire, a fait que on s'est trouvé dans une situation de pénurie de demande telle que il n'y avait aucun investissement, et le discours des entreprises était, c'est pas parce qu'il n'y a pas de demande qu'on n'investit pas, c'est parce que les charges sont trop élevées, etc. Bon, maintenant, elles sont au pied du mur. Les taux de marge sont remontés, hein, puisqu'on est maintenant au meilleur taux pratiquement depuis 2007.
La France emprunte même à des taux négatifs.
La France emprunte à des taux négatifs. On a cet alignement de planètes dont on a parlé. Messieurs les Anglais, si j'ose dire, à vous de tirer. Hein. Donc maintenant, puisque tout est basé là-dessus, c'est ça que je trouve inquiétant hein, dans la politique qui a été suivie, c'est qu'on a vraiment remis les clés du camion aux entreprises. Hein. On a dit, nous, l'État, on sait rien faire. Hein, que créer des conditions favorables pour les entreprises. Eh bien, on va voir.
Alors, le président de la République, François Hollande, et les ministres du gouvernement Valls multiplient les déclarations économiques, les annonces de réformes, petites ou grandes. Au cours des derniers mois, le rythme n'a pas faibli et ils évoquent tous la confiance qu'ils ont dans l'avenir de l'économie française. Écoutez ce petit échantillon de leurs déclarations.
La priorité de 2015, c'est toujours l'emploi. Parce que notre pays compte plus de 3 400 000 chômeurs, parmi lesquels un jeune de moins de 25 ans sur 5 est dans cette situation. Le chômage, c'est une menace pour la cohésion de notre pays.
La France, pour la première fois depuis très longtemps, est en situation de respecter ses objectifs de déficit. La France sera au rendez-vous de moins de 3% en 2017. Et la France aura une croissance suffisante pour faire reculer le chômage. Et nous ne dévierons pas de ce raisonnement.
Les prévisions de croissance vont dans le bon sens. D'ailleurs, on sent un climat qui change, un optimisme qui revient. Et ce climat que l'on sent ici, on commence progressivement à le ressentir dans le pays. Le rythme de croissance à la fin de l'année, je l'espère, sera autour de 1,5%. Et à partir de ce moment-là, on crée suffisamment d'emplois pour non seulement stabiliser le niveau du chômage, mais on sera à un niveau qui permettra, je l'espère, progressivement de faire baisser le chômage.
Et on sait bien qu'en France, à moins de 1,8-1,9 de taux de croissance, on ne réduit pas massivement, durablement, le taux de chômage, pas tout simplement parce qu'on ne crée pas assez d'emplois. Donc, il y a une timide reprise, elle est trop timide pour générer une baisse du chômage, et les mesures d'accompagnement gouvernementales ne sont pas à la hauteur des besoins de l'économie française.
Le fait que nous ne parvenions pas à décider, mettre en œuvre les réformes structurelles qui conditionnent la compétitivité de l'économie, c'est-à-dire la croissance, c'est-à-dire la création d'emplois et l'inversion de la courbe du chômage, le fait que ces décisions ne soient pas prises fait que François Hollande a un bilan triste et très décevant.
Alors vous aurez reconnu les voix de François Hollande, Michel Sapin, Manuel Valls, et puis côté opposition du député Les Républicains Benoît Apparu et de Jean Arthuis, député européen centriste, UDI et ancien ministre de l'économie et des finances. À partir de quel niveau de croissance on crée assez d'emplois? Benjamin Coria, 1,5, 1,8, 1,9, est-ce qu'on le sait? Mathieu Plame.
D'abord, c'est extrêmement compliqué, hein, parce que effectivement, ça nécessite de définir des tendances. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit à l'OFCE, c'est qu'en moyenne, si vous voulez, tendancielle, en gros, on a 0,9% de gain de productivité dans l'économie chaque année. Donc, ça veut dire que chaque année, on est capable de produire 0,9% d'activité supplémentaire sans embaucher. Donc, ça veut dire que si vous avez forcément une activité qui stagne, vous allez détruire des emplois. Donc, c'est-à-dire qu'avec 0,9% de croissance, vous maintenez l'emploi constant. Mais est-ce qu'il faut quand même savoir?
Les gains de productivité, c'est grâce aux progrès technologiques.
C'est l'innovation, c'est l'investissement, c'est pour les technologies, c'est les infrastructures publiques, c'est la recherche, c'est l'éducation, c'est tout un tas de choses. C'est très difficile à identifier, mais en moyenne, on est à 0,9% de gains de productivité. Mais attention, l'économie française a une particularité, notamment par rapport à certains grands pays européens, c'est qu'on a une démographie dynamique. Et qu'on a en moyenne à peu près 150 000 actifs supplémentaires chaque année. Ça veut dire que pour commencer à faire baisser le chômage, il faut créer environ 150 000 emplois par an. Donc avec 0,9% de croissance, on ne crée pas d'emplois. Avec autour de 1,5% de croissance, si vous voulez, vous allez créer à peu près 150 000 emplois. C'est pour ça qu'on dit, en gros, avec 1,5% de croissance, on stabilise le chômage. Donc tout ça, ce raisonnement est un peu compliqué, parce que ça veut dire que c'est sur des tendances moyennes, qu'on prend pas en compte ce qu'on appelle les cycles de productivité, ou des politiques qui visent à enrichir la croissance d'emploi, qu'on fait des allègements de charges, ou par exemple des allègements de cotisations, ou des emplois aidés, vous pouvez modifier un peu ça. Mais en moyenne, on va dire que voilà pourquoi on parle de ce fameux seuil d'un 5% pour faire baisser le chômage.
Benjamin Coriat, vous êtes d'accord? Il faut à 1,5 on réduit. Et est-ce que ce chiffre est valable pour la seule France, ou est-ce que c'est un chiffre international qu'on peut appliquer partout?
Non. C'est un, je crois que Mathieu Plane l'a bien expliqué. Il y a au moins deux déterminants, si je peux dire, qu'il faut prendre en considération, qui est d'une part les gains de productivité et d'autre part la démographie. Alors ça varie énormément de pays en pays. Hein. Par exemple, une des raisons pour lesquelles l'Allemagne apparaît comme ayant de si bonnes performances en termes de chômage, même si on enlève la question des petits boulots, etc., qui font sortir des tas de gens du chômage, c'est le fait que ils ont très peu de jeunes qui rentrent sur le marché du travail et qu'ils auront à le payer plus tard, hein, en ce qui concerne leur retraite. Donc, ce chiffre...
Parce que leur
démographie n'est pas dynamique, et que comme il y a peu de gens qui rentrent sur le marché du travail, on obtient des performances en termes d'emploi qui sont évidemment bien meilleures que dans des pays dans lesquels il y a des cohortes de jeunes qui tape, si je peux dire, à l'entrée du marché du travail. Je voulais juste rajouter un point par rapport à l'alignement des planètes. Il y a alignement des planètes et alignement des planètes, c'est-à-dire que il y a seulement 2 mois, hein, les planètes étaient alignées comme elles l'étaient, et comme il y avait zéro redémarrage de l'investissement, qu'est-ce qu'a fait Valls? Il a encore remis de l'argent sur la table, et encore en faveur des entreprises. Et c'était les mesures concernant la défiscalisation des investissements, les autorisant à les amortir à 140%. C'est simplement pour dire que quand on entend tout le temps « Ah oui, mais on peut rien faire, mais parce que les caisses sont vides », etc., c'est absolument faux. On a sorti 40 milliards, et quand ça n'a pas été assez, on a rajouté 2,4 milliards. Vous voyez? Donc, je veux dire, l'alignement des planètes, il est aussi... Il y a un côté international, mais il y a un côté au forceps, toujours dans la même direction, hein, c'est-à-dire en faveur des entreprises. Voilà.
Mathieu Plame, est-ce que ça a une conséquence sur l'industrialisation du pays, cette évolution-là? Il y a quelques mois encore, on parlait de la désindustrialisation de la France. Est-ce que ce processus est stoppé, enrayé, ou c'est trop tôt?
Alors, c'est un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai que la désindustrialisation, c'est aussi un phénomène, à part l'Allemagne, on va dire en Europe, qu'on voit un peu partout. Mais il faut dire qu'on a tapé tellement fort sur l'économie, et c'est vrai que les raisonnements aujourd'hui sont tellement réformes structurelles, politiques de compétitivité, on voit qu'on a un vrai problème, c'est qu'on n'a pas de coordination des politiques économiques dans la zone euro, qui conduit chacun individuellement à faire en sorte d'être plus compétitif que le voisin. Et comment on fait pour être plus compétitif à court terme? En fait, on tape sur les salaires, le coût du travail. Et au bout d'un moment, en fait, pourquoi on se retrouve dans une situation de déflation, ou quasi-déflation en tout cas dans la zone euro? C'est qu'effectivement, il n'y a plus personne pour tirer l'économie européenne. Je veux dire, on a eu des politiques budgétaires extrêmement restrictives dans la zone euro, partout, sachant qu'on commerce entre nous, quand même, plus de 50% du commerce se fait intra-zone. Donc si vos partenaires sont en récession, au fond de l'austérité, qui est là pour tirer la croissance dans la zone euro, sachant que l'Allemagne ne remet pas en cause ses excédents commerciaux très forts? Et puis, on était aussi dans une période où l'euro était quasiment 1,40. Donc vous avez une politique monétaire qui est plus dure.
Par rapport au dollar,
voilà,
on va dire.
À cette époque-là. Donc on était une politique monétaire qui était plus dure que toutes les autres zones du monde, et une politique budgétaire extrêmement restrictive par rapport aux autres zones. Et on vous dit, faites des réformes de compétitivité pour être plus compétitif. Sauf qu'au bout d'un moment, la zone euro dégage des excédents extrêmement élevés, du coup l'euro s'apprécie, on est dans un cercle vicieux. Et donc c'est pour ça que la seule réponse que le gouvernement a pu faire face à ça, on était pris en sandwich entre finalement l'Allemagne qui renonçait à relancer plus de ses salaires outre-Rhin, et du côté de l'Espagne qui était dans une déflation. Et donc la réponse est de dire il faut s'ajuster sur la compétitivité. Donc on a fait ce transfert extrêmement important aux entreprises, mais avec un problème, c'est que les politiques de compétitivité, elles peuvent marcher, mais ça a des effets à moyen et long terme, sauf que pour le financer, vous le faites à court terme, vous augmentez la TVA, vous réduisez un certain nombre de dépenses sociales, et ça a des effets à court terme sur l'activité. Donc c'est pas positif à court terme. Donc il faut avoir ça, c'est que quand on fait de l'économie, de la politique économique, il faut aussi gérer les effets de court moyen terme, et pas juste penser que c'est les réformes structurelles qui apportent de la croissance.
On poursuit ce débat dans quelques minutes, après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Lumière.
Deuxième partie des codiciers et codailleurs. Aujourd'hui, nous parlons de la situation de l'économie française avec deux invités. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Office français de conjoncture économique, et Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'Université Paris 13 et membre du collectif des économistes atterrés. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu que les indicateurs économiques français allaient un peu mieux. L'histoire récente, très frémissante de l'économie française, c'est aussi ce qui se passe entre la Grèce et les 18 autres pays de la zone euro. En quoi l'économie française est-elle directement concernée par les difficultés grecques, Benjamin Coriat?
Ben écoutez, on essaye de nous faire croire qu'elle est concernée par le niveau d'endettement de la Grèce vis-à-vis de la France, qui s'élève en gros autour de 40 milliards d'euros.
C'est de la dette publique privée. Enfin, ce sont les banques françaises.
Les banques françaises, pour l'essentiel, se sont complètement désengagées bien avant la restructuration, si je peux dire. Bien, donc c'est plutôt de la dette publique, mais justement, c'est ça le point qui est important. Le point qui est important, c'est que ces 40 milliards, en fait, c'est pour l'essentiel des garanties qu'a donné la France au MES, le mécanisme européen de stabilité, c'est-à-dire c'est l'entité qu'on a fabriquée pour lever de l'argent et prêter à la Grèce. Et les différents États européens sont garants de cet argent. Mais en fait, cet argent, il est déjà compté dans la dette française. Bon, en fait, ce qui est beaucoup plus embêtant sur l'affaire grecque, pour la France, mais bien plus généralement, on va en parler, c'est en cas de Grexit, c'est-à-dire si l'Union européenne et ses partenaires, notamment le FMI, s'obstinent à refuser le seul plan possible qui est celui, en gros, aujourd'hui proposé par Tsipras, ce qui est embêtant, c'est que si on va vers une situation catastrophique de ce genre, avec donc un Grexit, ou en tout cas
une sortie de la Grèce de l'euro,
qui va pas se faire en une minute, mais qui va justement, c'est un peu le problème, s'étaler sur plusieurs mois, parce qu'il va y avoir d'abord défaut, ensuite il y aura une situation dans laquelle, tout en étant défaut et contrôle d'échange, la Grèce restera avec l'euro. Bref, si on rentre dans ces instabilités-là, alors les conséquences seront catastrophiques, non pas en ce qui concerne la dette, mais via la contagion sur les marchés et les taux d'intérêt. C'est surtout ça qu'il faut craindre. Pour le moment, la France emprunte à des taux extrêmement bas. L'instabilité de la situation en Grèce a déjà nourri la hausse des taux d'intérêt pour l'Italie, le Portugal et les pays, l'Espagne, etc. Après, ça va être le tour de la France. Et donc ça sera beaucoup plus embêtant que les 40 milliards dont on nous rabat les oreilles depuis le début de cette crise.
Mathieu Plane.
Benjamin Correa a bien expliqué, je pense, effectivement, le risque auquel on était confronté. Clairement, le problème du Grexit, d'abord, il y a le risque de défaut, et après, il y a la sortie de la zone euro. On voit que c'est d'abord deux choses différentes, mais il y a surtout, on rentre encore dans un nouveau monde, quoi. C'est-à-dire que on a eu Lehman Brothers, qu'on pensait, en tout cas.
Lehman Brothers, c'est la banque américaine qui a fait faillite.
C'est un choix de la banque
américaine. Et qui a déclenché la dernière crise.
La crise financière, la crise de liquidité. On ne sait pas. Ça sera peut-être pas Lehman Brothers, mais ça peut être un Lehman Brothers, à nouveau. Sauf qu'on n'est pas dans la même situation qu'en 2007.
C'est-à-dire que la faillite grecque,
la faillite grecque pourrait entraîner un effet, parce que certains disent qu'il n'y aura aucun effet, mais on n'en sait rien, parce qu'il pourrait avoir une surréaction des marchés financiers face à ça. S'il y a une attaque spéculative des pays périphériques en disant, il paraît que l'euro était irréversible, finalement il est irréversible, alors pourquoi pas le Portugal, pourquoi pas l'Irlande, pourquoi pas l'Espagne, l'Italie? Je veux dire, on rentre dans un nouveau monde. Donc,
le signal politique donné, c'est que si la Grèce devait sortir aussi simplement elle est en défaut, c'est qu'on va revenir dans une situation dans laquelle on ne sait plus ce qu'est la zone euro, et surtout on aura fait la démonstration que nos institutions autour de l'euro sont d'une extrême fragilité, puisque un pays qui fait 2% du PIB européen et 340 milliards d'euros tout à fait entre nous, c'est de la rigolade, est capable de foutre en l'air l'édifice. Donc on va revenir, Mathieu de vous avoir interrompu, mais on va revenir dans une situation d'incertitude complète, avec une première leçon faite, l'Europe est incapable de régler ses problèmes.
Bon, et pour la France, c'est critique.
Alors, justement, bah bien sûr que c'est critique. La France est au centre de la zone euro, donc ça sera peut-être pas le pays qui est directement touché en premier, mais par effet de contagion, de toute façon, il y a effectivement une imbrication financière très forte. Et donc, ça veut dire que si, à nouveau, l'Espagne, ou en tout cas même des pays moins gros que l'Espagne, commencent à ne plus pouvoir se refinancer sur les marchés, on doit remettre au pot. Sauf qu'on a quand même une différence par rapport à 2007, c'est que la situation financière des États n'est plus du tout la même. Comme vous l'avez remarqué, la dette publique a augmenté en moyenne de 30 points de PIB de produit intérieur brut. À l'échelle de la France, c'est plus de 600 milliards. Donc, ça veut dire que les marges de manœuvre sont plus les mêmes qu'en 2007. La Banque Centrale Européenne aujourd'hui a joué cette dernière carte. On a des taux qui sont à zéro, il y a des injections de liquidités, elle est même à la limite de son mandat. Donc ça veut dire que si on se retrouve dans la situation d'un Grexit et d'un nouveau Lehman Brothers, eh ben on ne sait pas comment on va faire pour arrêter l'incendie. Alors qu'en 2007 on a pu le faire, aujourd'hui on n'a plus les marges de manœuvre. Donc il vaut mieux jouer en amont, essayer de trouver quand même un accord avec Tsipras plutôt que de jouer avec le feu et rallumer un incendie, à mon avis, à une forêt qui peut facilement prendre feu, quoi.
Alors le modèle économique français, il est mis en danger potentiellement par cette affaire grecque. Il est aussi remis en cause par le chômage massif qui sévit dans le pays. Le gouvernement compte sur beaucoup de mécanismes comme par exemple l'apprentissage dans les PME, sur l'alternance travail-études pour résorber le chômage des jeunes. C'est un reportage Écho d'ici Écho d'ailleurs, signé Laetitia Bezin.
Ce sont elles qui sont créatrices d'emplois, répètent en chœur gouvernement et organisations patronales. Les petites entreprises forment près d'un apprenti sur deux. Alors ce type de contrat revient moins cher que d'embaucher un salarié. Mais pour les patrons, c'est aussi plus de travail, estime Rémi Perruchot, à la tête d'un magasin de sport en région parisienne. Il emploie 3 personnes, dont un apprenti.
L'arrivée d'un jeune par rapport à ceux qui travaillent déjà, il faut qu'il s'insère. Après, le truc, c'est qu'il faut vraiment être formateur dans l'âme. Et c'est pas facile, parce qu'il faut avoir de la patience, mais il faut être intransigeant pour pas qu'il prenne de mauvaises habitudes, pour qu'il prenne le bon pli. L'univers de l'entreprise, c'est pas pareil que l'école. Et il faut être derrière eux. Donc après, si on est derrière eux, nous, on travaille plus. Et voilà, c'est tout un challenge qui est intéressant à la fois, mais qui est relativement compliqué à mettre en place.
Mais au-delà de cette pédagogie à apporter, la difficulté, c'est aussi d'attirer les jeunes vers ces formations. Malgré les mesures du gouvernement en faveur de l'apprentissage, le nombre de contrats a baissé de près de 10% en 2014. Un constat que fait aussi le chef d'entreprise.
Je pense que là, il y a vraiment du boulot à faire. J'ai eu du mal à recruter cette fois-ci. J'ai pas eu assez de candidats. En septembre dernier, quand j'ai voulu recruter quelqu'un, j'ai eu que 3 candidatures. Il n'y en a qu'un seul qui est venu.
Faciliter la mise en relation entre entreprises et jeunes, c'est l'objectif de l'AGEFA, l'association de gestion de formation en alternance, explique Bernard Capron, son président.
Nous allons vers les entreprises pour les sensibiliser aux problèmes de l'enseignement professionnel. Donc ce sont nos PME et nos TPE qui vont aller dans les écoles pour expliquer leur métier et puis qui vont recevoir les jeunes dans leur entreprise et éventuellement les enseignants.
C'est comme ça qu'Alizée, 17 ans, a entendu parler d'apprentissage. Si elle n'est pas certaine de se faire embaucher par son patron à la fin de sa formation, la jeune fille en est convaincue. L'apprentissage, c'est un chemin sûr pour trouver du travail.
De base, j'étais en bac pro, pas en alternance. Mais je me suis rendu compte que des stages, c'est vraiment court et on n'a pas vraiment le temps d'apprendre grand-chose. Alors qu'en alternance, on est vraiment dans le milieu du travail, on a le temps d'apprendre et vraiment de se former. Alors qu'en stage, c'est moins le cas. On est prêt, on est formé, donc ce n'est pas un nouveau terrain sur lequel on arrive. On a déjà quelques connaissances, on connaît le milieu, on est moins mal à l'aise. Donc je pense que les entreprises ont moins peur de nous prendre. Comme on est déjà formé, c'est mieux pour nous.
D'après la dernière étude de l'INSEE, 2/3 des jeunes en apprentissage occupent un emploi à la fin de leur contrat.
Alors c'était un reportage signé Laetitia Bezin. La France bénéficie de la baisse de l'euro, du pétrole, pas cher et de taux d'intérêt très bas. Est-ce que ça ne fabrique pas de la croissance artificielle, Mathieu Plain ?
Alors, bien sûr, en tout cas, ça donne des vents favorables. Mais à l'inverse, les vents étaient très contraires jusqu'à présent. Je veux revenir aussi, il y a un quatrième levier, hein, c'est les politiques budgétaires d'austérité. C'est-à-dire que nous, on a fait le calcul à l'OFCE, si vous voulez, sur la France, entre 2011 et 2014, vous avez à peu près 5 points de PIB, c'est-à-dire près de 100 milliards, qui sont amputés sur la croissance liée aux politiques budgétaires national, mais aussi de nos partenaires commerciaux au sein de la zone euro. Donc on a un choc qui est massif. Donc on comprend pourquoi en fait on a eu ce double dip dans la zone euro, c'est-à-dire cette nouvelle récession après la première récession. Et si vous regardez en termes d'effet sur le pouvoir d'achat des ménages, il faut avoir en tête que le pouvoir d'achat par ménage en moyenne a baissé de 1630 euros entre 2011 et 2013. C'est un choc sans précédent. On est revenu en 2013 au niveau de 2003. Et si vous regardez la partie liée aux prélèvements fiscaux et sociaux, c'est-à-dire que à la hausse de la fiscalité globale, c'est quasiment 1000 euros en moyenne par ménage. Donc, on voit bien qu'on a étouffé complètement l'économie en voulant régler trop rapidement un problème de déficit des dettes. Et ça, c'était une erreur initiale de la zone euro. Et tous les pays l'ont fait en même temps, ce qui a replongé en fait la zone en récession et qui n'a pas permis finalement de réduire rapidement les déficits. Donc, on se retrouve dans cette situation avec un chômage de masse et des déficits qui sont malgré tout encore relativement élevés. Donc on voit qu'il y a une erreur stratégique qui a été faite effectivement par la Commission européenne, qui n'est pas aujourd'hui remise en question, et ça c'est un vrai problème. Le seul point positif, c'est qu'on est en train progressivement d'en sortir, mais on n'est pas non plus dans une politique de relance de l'économie. Le seul fait de faire moins d'austérité, bah, ça permet de redégager un peu de marge de manœuvre, comme Benjamin Cohen l'a dit, de l'argent finalement il y en a un peu, quand on veut le débloquer, on le fait quand même.
Je vous posais cette question à la suite du reportage de Laetitia Bezin, parce que évidemment, et ça semble un peu cotère sur chambre de bois, ces mécanismes d'aide, ces mécanismes d'apprentissage face au caractère massif de oui. du problème et des ponctions oui. que souligne Mathieu Plain.
Oui, oui, à ceci près que je voudrais dire la chose suivante. Bon, c'est sûr que l'apprentissage en France n'a jamais très bien marché, qu'en ce moment il marche encore plus mal que d'habitude, et que c'est des dispositifs sur lesquels il faut se pencher, qu'il faut chercher à améliorer. Mais ce que je voudrais dire, ce qui ne serait pas une cotère sur une jambe de bois, ce serait de réformer en profondeur la formation professionnelle. Là, il y a 32 milliards qui est extrêmement mal dépensé. Alors, pour des tas de raisons, y compris parce que les partenaires sociaux, on va dire, s'alimentent et se fournissent là-dessus, soit directement...
Soit sucre, vous voulez dire.
En tout cas, payent un certain nombre de permanents, soit directement, soit à travers des organismes de formation dont ils ont le contrôle. Mais ça n'est pas que la seule raison. La vraie raison pour laquelle cet argent est extrêmement mal utilisé, puis 32 milliards d'euros, je répète, c'est beaucoup d'argent, c'est un fort levier, oui, bien sûr. C'est le fait que ça avait été conçu, la formation professionnelle à l'époque, c'était la loi de 71, de Jacques Delors, ça avait été conçu pour les salariés. C'est-à-dire c'est de l'argent destiné aux salariés. Et ça se justifiait pleinement. L'idée, c'était, on forme les salariés dans des formations qualifiantes et on crée les conditions pour la progression salariale, la progression de carrière, etc. Bien. Et de fait, la formation professionnelle continue d'être orientée autour de cet objectif essentiel, même si c'est plutôt les cadres qui en bénéficient, même si, etc. Bien. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que il faut changer cette orientation de la formation professionnelle et qu'une partie soit destinée aux chômeurs, pas à ceux qui ont déjà un emploi. Voilà. Et donc ça, c'est une bifurcation dans l'orientation de la formation professionnelle qu'il faudrait que les partenaires sociaux aient le courage d'avoir et que les pouvoirs publics favorise, parce que si on pouvait sortir, ne serait-ce que 8, 10, 12, 15 milliards, vous voyez, je dis simplement un tiers, si on tourne autour de 10 milliards, pour de la formation professionnelle pour des chômeurs, alors je pense que on aurait entre les mains un outil institutionnel et financier significatif.
Alors c'est Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Aujourd'hui, nous sommes plutôt Éco d'ici, puisque nous parlons de l'économie française. Deux invités, les économistes Benjamin Coriat et Mathieu Plane. Ce qui caractérise la Grande-Bretagne, c'est son poids dans la sphère financière. Ce qui caractérise l'Allemagne, dirons-nous, c'est sa force à l'exportation. Comment la France, qui n'a aucun de ces deux atouts, peut-elle se redresser durablement sur le plan économique, Mathieu Plane?
Alors d'abord, il faut arrêter le French bashing, quoi. Premièrement, c'est-à-dire que quand on regarde les indicateurs macroéconomiques, la France est loin d'être le mauvais élève de la classe européenne. Justement, la France a plutôt bien résisté à travers la crise. C'est-à-dire qu'on voit que c'est la zone euro qui a connu un plongeon massif. Mais quand vous regardez par rapport à la moyenne de la zone euro, la France est au-dessus. C'est-à-dire que depuis 2007, on a retrouvé un niveau de PIB qui est légèrement au-dessus de celui qui était avant crise. La zone euro en moyenne est encore 2%.
2% en dessous.
En dessous. L'Allemagne est légèrement au-dessus de nous, mais il n'y a pas non plus une différence aussi massive. Pareil, Si vous regardez la situation de l'endettement global, des entreprises, des ménages ou même de l'État, globalement, on est plutôt moins endetté que l'ensemble des autres pays. Pareil, on a des contreparties, c'est qu'on a créé des actifs. Quand vous regardez la richesse nette par habitant, elle est plutôt élevée en France. Pareil, on a quand même une compétitivité, certes, qui est dégradée, mais parce qu'on est aussi dans une zone euro qui ne nous laisse pas non plus beaucoup de marge de manœuvre. Mais pareil, on a 30% du PIB qui est en exportation. Le risque de l'Allemagne, c'est que 50% de son PIB vient des exportations. Donc le jour où il y a une crise mondiale, effectivement, les récessions sont aussi plus violentes. Là, pareil, du côté du Royaume-Uni, il y a aussi une hypertrophie du système financier. On voit que dans le cas d'une crise financière, c'est très grave. Ils ont une dette immobilière qui est massive. Tout ça, on l'a pas en France. Donc il y a des problèmes en France. Je dis pas qu'il faut pas les régler. Effectivement, il y a un certain nombre d'aspects sur la compétitivité, sur les politiques industrielles, un certain nombre de choses. Mais pour autant, il faut faire attention. On n'est pas le mauvais élève de la classe. Et qu'aujourd'hui, notre système social a plutôt montré une certaine résistance face à la crise. On a peut-être des cycles qui sont moins marqués. Mais en tout cas, on voit que même si notre chômage est élevé, à 10%, donc on a eu 3 points de taux de chômage depuis le début de la crise, ce qui est massif, mais c'est moins que ce que d'autres pays ont connu dans la zone euro. Donc il faut faire attention, l'exception aujourd'hui en fait c'est l'Allemagne dans la zone euro et c'est pas la France. Et donc il faut voir
dans quel sens vous dites ça.
En fait, quand vous regardez tous les indicateurs, l'Allemagne a une particularité, c'est vrai qu'ils ont des excédents commerciaux qui sont massifs, c'est-à-dire que c'est quand même le premier exportateur au monde, hein. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que si l'Allemagne aujourd'hui était dans une zone avec des taux de change flexibles, l'euro-marque s'apprécierait beaucoup. Et donc, on voit bien qu'on a ce problème-là, c'est que il faudrait avoir une monnaie qui se déprécie pour les pays d'Europe du Sud et qui s'apprécie pour l'Allemagne. Or, aujourd'hui, on voit qu'en fait, l'Allemagne profite aussi de taux de change fixe. Cette particularité, une démographie déclinante, comme ce qui a été rappelé, c'est-à-dire que l'Allemagne a besoin de créer beaucoup moins d'emplois pour faire baisser son chômage. Et puis, il y a un autre truc, c'est que l'Allemagne a connu des indicateurs de pauvreté qui ont augmenté. Donc, il faut pas dire que c'est un miracle, l'Allemagne. L'Allemagne a des qualités, mais tout ne va pas bien en Allemagne. Et je pense que quand on en reparlera dans 10 ans, on n'aura plus du tout la même image de l'Allemagne qu'aujourd'hui.
Benjamin Coriat, il faut arrêter le French bashing.
Oui. Juste un mot sur l'Allemagne et la crise grecque pour dire, comme l'a rappelé Mathieu Plane, que l'Allemagne bénéficie avec le taux de change de l'euro d'un dumping absolument magnifique parce qu'il est totalement sous-évalué par rapport à la puissance de l'économie allemande, ce qui leur donne une capacité de pénétration sur les marchés qui est absolument spectaculaire et d'ailleurs qui se trouve dans les chiffres. Des pays comme l'Espagne, le Portugal et évidemment la Grèce subissent eux au contraire un taux de change extrêmement élevé, ce qui explique d'ailleurs la dégradation de leur performance. Simple parenthèse pour dire que on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, et donc que nos amis allemands qui aujourd'hui disent ah oui la Grèce machin etc, ils profitent d'un rapport de taux de change avec la Grèce comme avec les pays du Sud qui leur permet des exports absolument formidables, et donc on n'aura pas d'Europe s'il n'y a pas un tout petit peu de transfert, c'est-à-dire que ces avantages-là que tire l'Allemagne soient compensés par le fait qu'il y a du transfert qui se fait par ailleurs. Bon, ça c'était juste une parenthèse pour espérer qu'un peu de sagesse gagne Bruxelles et que on trouve une solution. Bien. Alors maintenant, sur l'histoire du French bashing, Mathieu Plane a insisté sur des dimensions macroéconomiques, hein, de comportement de la France. Moi, je vais peut-être insister sur des dimensions plus entreprises et politique industrielle. Alors, c'est vrai que la France a connu une très forte désindustrialisation, hein, dans les, on va dire, 20 dernières années. Hein, ça n'a pas commencé la semaine dernière. Mais il y a quand même une série de points qui sont très forts et il y a une série de points perfectibles. Alors les points forts, on les connaît, mais il faut quand même le redire. On vient de finir le salon de l'aéronautique. Airbus a du boulot jusque en l'an 2040 ou à peu près. Et elle sait pas comment elle va livrer. Hein. Le point aujourd'hui, il est là. Bien. Voilà pour l'aéronautique.
Et aussi les Rafales.
Il y a les Rafales qu'on a même réussi à vendre, mais là, comment dire, c'est de la manœuvre entièrement diplomatique. On voit très bien, hein, les pays qui ont acheté des Rafales, c'est des pays avec lesquels des accords diplomatiques sont passés. Bon, l'industrie du luxe, qui recouvre quand même des domaines extrêmement nombreux, l'agroalimentaire, même si aujourd'hui il souffre, et si le modèle doit être revu, hein, il faut basculer vers l'agroécologie et arrêter avec les modèles ultra-productivistes du passé, l'automobile, etc. Bon, bref, Il y a des points forts de l'économie française. Maintenant, les points faibles et ce qui est perfectible. Le point faible de l'économie française, je vais sans doute étonner des gens, c'est que tout est concentré dans des très grandes entreprises qui écrasent tout. Et on n'a pas un tissu de PME, d'entreprises moyennes, etc. Et l'une des raisons pour lesquelles on l'a pas, c'est que toutes ces entreprises dynamiques moyennes, elles ont été absorbées par les grands groupes, et dès qu'il y en a une qui apparaît, hop, elle est absorbée par un grand groupe. Bien. Et que ces grands groupes, aujourd'hui, faut bien le dire, ils sont totalement déterritorialisés, ils font leur argent ailleurs, le développement de l'industrie sur le sol français, c'est le dernier de leurs soucis. Bon. Donc, il faut progresser de ce côté-là. Une dernière chose, voilà, c'est que je pense, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai fait ce livre, que autour de l'économie numérique, autour des plateformes, autour de cette nouvelle économie collaborative, si on crée les conditions juridiques, fiscales, etc., il peut se développer tout un tissu de nouvelles entreprises qui seront en plus arrimées sur l'économie de demain, celle du numérique. Et je pense qu'il y a une grande politique du numérique à faire et que c'est l'occasion de revitaliser le tissu des petites et moyennes entreprises en France.
Vous me fournissez une transition absolument parfaite, Benjamin Coriat, avec le prochain reportage de Laetitia Bazin, les PME françaises sur le front des exportations. On écoute son reportage.
Les entreprises françaises à la traîne en matière d'exportation à l'étranger, c'est ce qu'a encore conclu l'INSEE en début de mois dans son rapport sur l'état de l'économie française. José Bardagy est l'un des auteurs de cette étude.
Il y a trois facteurs potentiels d'explication. Il y a la présence des économies émergentes, beaucoup plus fortes sur les marchés étrangers que sur les marchés domestiques. Le deuxième facteur, c'est effectivement un facteur de positionnement et également la possibilité que l'entreprise française ait décidé de maintenir ses parts de marché sur le marché domestique, ce qui se fait en partie au détriment de sa présence sur les marchés étrangers.
Des obstacles que Weezings, PME française spécialisée dans la santé connectée, est loin de connaître. Elle réalise aujourd'hui 90% de son chiffre d'affaires à l'international. C'est avec un PES-personne connecté à Internet qu'elle a conquis l'Amérique d'abord, puis l'Europe et l'Asie. L'entreprise qui compte 170 salariés est présente dans une trentaine de pays. Julien de Préaumont, son directeur marketing.
Pour pénétrer profondément un marché, il ne suffit pas d'avoir un site, il faut tisser des relations, notamment avec les chaînes de distribution. Aux États-Unis, il a fallu convaincre des gens comme Best Buy, donc c'est des grosses chaînes américaines, créer cette relation de confiance où ils vont d'abord acheter un premier produit qui va se vendre bien dans leur boutique, puis un deuxième, puis un troisième, et donc ça, c'est vraiment beaucoup de travail.
Sa réussite à l'international, elle le doit surtout à son positionnement sur un secteur en pleine expansion et à forte valeur ajoutée. Sa dernière invention, une sorte de lampe de chevet qui permet d'améliorer la qualité du sommeil, a d'ailleurs reçu le prix du Consumer Electronic Show de Las Vegas l'année dernière.
Donc là, ce qu'on écoute, c'est un programme d'endormissement. Il y a un vrai engouement sur les objets connectés. On a tout de suite eu cette approche internationale parce que le gros avantage de ce marché à l'échelle mondiale, c'est que le gâteau grossit. Donc on a tous les moyens de prendre une plus grosse part si on se débrouille bien. Avec un bon produit, on est capable de rivaliser avec les plus grands.
Les nouvelles technologies, c'est aussi sur cela qu'a misé l'entreprise Innovate. Spécialisée dans la distribution de smartphones et autres montres connectées, elle réalise 20% de son chiffre d'affaires sur le marché européen. Et pour s'y intégrer plus facilement, elle a choisi de créer des filiales, explique Stéphane Bobo, le fondateur de l'entreprise.
Il faut être bien structuré, avoir un business model qui a fait ses preuves déjà localement en France, pour pouvoir s'ouvrir et répliquer notre modèle économique. C'est pour ça que pour l'instant, on a procédé par acquisition, en pouvant se développer par l'intermédiaire de structures qui sont déjà en place et qui ont cette culture locale très forte.
Les études de marché autour des objets connectés sont très attrayantes pour ces PME françaises qui souhaitent s'implanter à l'étranger. Elles tablent sur un chiffre de 50 milliards d'objets connectés dans le monde d'ici 2020.
C'était un reportage signé Laetitia Bezin, Mathieu Plane. Qu'est-ce qui vous inspire ce reportage sur les PME françaises à l'export?
D'abord, c'est vrai que on voit les difficultés aujourd'hui d'un certain nombre de PME, beaucoup plus que les grands groupes. Effectivement, l'accès au marché est plus compliqué, le financement est plus compliqué, elles sont plus dépendantes aussi de la demande locale, ce qui n'est pas le cas des grandes entreprises qui vont pouvoir effectivement chercher la demande là où il y a de la croissance, alors que effectivement, il faut quand même pas oublier que 80% des entreprises n'exportent pas dans leur chiffre d'affaires, ce qui est quand même. Et puis, dans celles qui exportent, c'est très concentré sur les 10% qui restent. Donc, c'est quand même un marché très concentré. Après, juste, je voulais revenir là-dessus, c'est sur les choix qui ont été faits par le gouvernement autour du tissu productif. Hein, donc, il faut quand même pas oublier qu'il y a 41 milliards transférés aux entreprises. Donc, c'est quand même une somme massive. Hein, on peut pas dire que ce gouvernement n'a rien fait pour les entreprises. Juste rappeler que les exonérations de cotisations bas salaire, hein, les exonérations Fillon, c'était 20 milliards. Là, du coup, on va transférer 40 milliards. Donc, c'est quand même deux fois plus que ce qu'il y avait. Mais justement, je crois qu'il y a une erreur qui est faite, c'est qu'on a fait beaucoup sur la compétitivité coût. C'est-à-dire qu'on a axé énormément sur les baisses de coûts du travail en oubliant qu'une chose importante aujourd'hui dans le monde moderne, c'est la compétitivité hors coût.
Et que, c'est-à-dire, c'est quoi?
C'est-à-dire que la compétitivité qui est pas sur le coût du travail. Et aujourd'hui, par exemple, et c'est plutôt une bonne chose, mais on aurait pu faire différemment, il y a quasiment plus de cotisation au niveau du SMIC. Il y aura plus de cotisation du SMIC. Donc le coût du travail a baissé. En revanche, on n'a rien fait pour la politique de compétitivité hors coût, c'est-à-dire qu'on aurait pu dire un certain nombre de dépenses d'investissement, de transition énergétique, d'innovation auraient pu être éligibles à des dispositifs fiscaux, ce qu'on n'a pas fait parce qu'on a axé sur la compétitivité coût jusqu'à 3,5 SMIC, ce qui est à mon avis pas très efficace. Donc il y a quand même cette question-là de savoir comment on aurait pu mieux affecter ces 41 milliards. Il faut savoir que l'industrie, du coup, à peu près 20% aujourd'hui du CICE. L'industrie, c'est le secteur exposé à la concurrence internationale parce que on a juste fait des baisses de cotisations ou un CICE qui a un crédit d'impôt sur le salaire et qui dépend pas du tout du positionnement effectivement à l'international. Donc il y a quand même cette à mon avis cette question qu'il fallait développer, qui est de dire effectivement il y a des marges de manœuvre qui ont été sorties, elles ont été malheureusement à mon avis assez peu utilisées pour l'innovation et la politique de compétitivité hors coût.
Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci à vous Mathieu Plane, Benjamin Coria d'avoir participé à cette émission qui est maintenant terminée. Merci à Laurence Sarniguet, la Sonothèque des RFI, pour son aide précieuse. À partir de la semaine prochaine, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, entre dans une période de rediffusion qui va durer 2 mois. Je vous retrouve pour de vrai début septembre, toujours avec Guillaume Munier à la réalisation.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI.